Vous écoutez France Culture.
Bienvenue sur France Culture en ce troisième dimanche du Carême. Voici le troisième volet de la série des conférences du Carême protestant intitulée « Quel esprit nous anime ?» Quel est cet esprit qui habite en nous et qui nous inspire ? Le pasteur Corinne Ackley de l'Église protestante unie de France s'est chargé de la préparation des conférences du Carême protestant pour cette année 2014. Elle nous propose aujourd'hui de nous intéresser à notre esprit d'écoute. Écoutons tout de suite le pasteur Corinne Ackley qui, empêchée par un problème de santé, n'a pas pu se rendre dans les studios pour donner ses conférences elle-même. Elle sera donc représentée au micro par le pasteur Marianne Guéroux.
Chers auditeurs, bonjour. Une hospitalisation m'a empêché d'enregistrer moi-même les conférences de Carême. Merci au pasteur Marianne Guéroux d'avoir prêté sa voix et son souffle. C'est le signe qu'aujourd'hui encore, nous partageons le même esprit qui nous rassemble. Esprit d'équipe, esprit de non-concurrence et d'humilité. Que l'esprit qui nous fait vivre soit avec chacun, chacune d'entre vous et qu'il vous comble de joie.
Le premier service que l'on doit au prochain, c'est de l'écouter. Quel esprit nous anime ? Aujourd'hui, l'esprit d'écoute.
Bonjour à vous qui nous rejoignez pour vivre cette conférence du Carême protestant. Un temps d'écoute et de réflexion qui nous prépare à vivre l'événement de Pâques, en nous replongeant dans des pages de la Bible qui nous questionnent sur nos modes de vie et de relation à l'autre. Aujourd'hui, dans ce que nous vivons au quotidien, le sens de l'écoute est mis à mal. Dans cette saturation de messages et d'images, nous devenons fragiles pour nous situer dans le monde. Nous aimerions, toutes et tous, pouvoir écouter une parole qui nous rendrait libres et qui nous ferait vivre. Une parole que nous saurions reconnaître tout de suite, comme l'on reconnaît tout de suite la voix de ceux qu'on aime. Aujourd'hui, je voudrais donc insister sur l'écoute, rechercher un esprit d'écoute. Avant de lire le livre du prophète Jérémie, je vous invite à prier avec ce texte de frère Roger, ancien prieur de Thésée. T'attendre. Toi, le Dieu vivant, quand malgré la repentance, notre cœur en vient à nous condamner. Tu es là, tellement plus grand que notre cœur, et tu ne veux jamais la souffrance humaine. Ta présence, ô Dieu, c'est ta confiance déposée en nous, c'est aussi le pardon. Tu oublies ce qui est en arrière de nous pour que nous nous tournions vers un devenir, être créateur avec toi. T'attendre, de jour et de nuit, c'est laisser s'élargir notre cœur au point que plus l'existence se charge d'années, plus le cœur voudrait brûler dans un même amour, le nôtre et le tien. Dans le livre du prophète Jérémie, je lirai quelques versets du chapitre 27 et l'intégralité du chapitre 28. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole parvint à Jérémie de la part du Seigneur. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Fais-toi des liens et des barres de joug et mets-les sur ton cou. Tu en enverras au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des Ammonites, au roi de Tyr et au roi de Sidon, par l'intermédiaire des messagers qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécias, roi de Juda, et à qui tu donneras mes ordres pour leur maître, en disant « Ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à vos maîtres. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent « Vous n'aurez pas à vous soumettre au roi de Babylone. » Car c'est le mensonge qu'il vous annonce en prophète. Je ne les ai pas envoyés, déclaration du Seigneur, et c'est pour mentir qu'il parle en mon nom, afin que je vous bannisse et que vous disparaissiez, vous et les prophètes qui vous parlent en prophète. » Puis dans le livre de Jérémie au chapitre 28, la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, le prophète de Gabaon, me dit dans la maison du Seigneur, sous les yeux des prêtres et de tout le peuple. Ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, et je ramène en ce lieu tous les objets de la maison du Seigneur que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a pris de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ramène en ce lieu, déclaration du Seigneur, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les exilés de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. » Le prophète Jérémie répondit au prophète Anania, sous les yeux des prêtres et de tout le peuple qui se tenait dans la maison du Seigneur. Le prophète Jérémie dit « Qu'il en soit ainsi, que le Seigneur fasse ainsi, que le Seigneur réalise les paroles que tu as dites en prophète, et qu'il ramène de Babylone en ce lieu les objets de la maison du Seigneur et tous les exilés. Seulement écoute, je te prie, écoute cette parole que je te dis à toi et à tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi depuis toujours ont annoncé contre de nombreux pays et de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète annonce que tout ira bien, c'est qu'on viendra ce qu'il a annoncé, qu'il sera reconnu comme un prophète vraiment envoyé par le Seigneur. » Alors le prophète Anania prit la barre de dessus le cou du prophète Jérémie et il la brisa. Et Anania dit sous les yeux de tout le peuple, « Ainsi parle le Seigneur. C'est ainsi que dans 2 années, je briserai le joug que Nabuchodonosor, roi de Babylone, fait peser sur toutes les nations. » Et le prophète Jérémie passa son chemin. Alors que le prophète Anania eut brisé la barre qui était sur le cou du prophète Jérémie, la parole du Seigneur parvint à Jérémie. « Va, tu diras à Anania, ainsi parle le Seigneur. Tu peux bien briser des barres de bois, tu devras les remplacer par des barres de fer. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu des armées, le Dieu d'Israël. J'ai mis un joug de fer sur le cou de toutes ces nations, pour qu'elles se soumettent à Nabuchodonosor, roi de Babylone, et elles se soumettront à lui. Je lui ai même livré les animaux sauvages. » Et le prophète Jérémie dit au prophète Anania, « Écoute, je te prie, Anania. Le Seigneur ne t'a pas envoyé, et toi, tu incites ce peuple à mettre sa confiance dans un mensonge. À cause de cela, parole du Seigneur, je te renvoie de la terre. Tu mourras 7 années, car tu as appelé à la subversion contre le Seigneur. » Le prophète Anania mourut cette année-là, au 7e mois. Écouter, réapprendre à écouter, être écouté, être entendu. Du temps de Jérémie, le prophète Ananias parlait au nom de Dieu, tout comme Jérémie. Mais leur message était complètement différent. L'un annonçait la guerre et l'exil, l'autre annonçait l'armistice et la concorde. L'un était attentif à la parole que Dieu lui confiait, et quels qu'en soient les risques, il osait transmettre la parole de Dieu, malgré le ridicule. Il se présente affublé d'un joug et de chaînes de forçat. Malgré les railleries, malgré l'immense solitude de celui qui a l'impression de prêcher dans le désert. L'autre écoutait surtout ses peurs et ses espoirs. Il refusait de voir la réalité en face et se faisait son propre scénario happy end. Deux prophètes parlent au nom du même Dieu. L'un se trompe et ment à ses concitoyens, l'autre parle en vérité et irrite ses concitoyens. Comment discerner le vrai du faux? Qui ment et qui dit la vérité? Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, que n'a-t-on pas raconté à toutes les époques et sous toutes les latitudes? L'histoire donnera raison à Jérémie contre tous les autres faux prophètes de cette époque trouble. Le temps confirmera les intuitions et les inspirations du vrai prophète. Jérémie, comme plus tard Jean le Baptiste, s'est mis à l'écoute active et attentive de la parole de Dieu. Il ne prête pas attention aux balivernes et aux propos bruyants qui attisent et captivent les foules. Il n'est pas médiatique. Ses déclarations ne font pas la une de tous les journaux. Il observe les petits signes et il les signale. Son message va à contre-courant de son époque parce qu'il ne peut pas faire autrement. L'inspiration de Dieu le pousse malgré ses réticences et quoi qu'il lui en coûte, il parle vrai. Devant certaines situations de notre monde contemporain, devant certains faits de notre actualité, nous sentons bien, nous aussi, qu'il faudrait oser une parole vraie, sincère. Oser dire ce que nous croyons, ce que nous voulons promouvoir, les petits signes que nous distinguons. Mais nous sentons bien aussi que nous serons ridicules et incompris. Comment parler d'amour, de fraternité, de compassion, de don, de générosité, de réconciliation, de pardon, de péché, de repentance, de confiance, dans un monde qui ne partage pas ce type de valeurs? Écouter, réapprendre à écouter, être entendu. Oui, dans notre quotidien, le sens de l'écoute est mis à mal. Nous sommes plongés dans une saturation de messages et d'images, et il devient bien difficile de se situer dans le monde. Si seulement nous pouvions écouter une parole qui nous rendrait libres et nous ferait vivre, et que nous saurions reconnaître tout de suite comme l'on reconnaît immédiatement la voix de ce qu'on aime. Et nous pourrions facilement refuser alors tous ces discours qui nous manipulent, nous emprisonnent, nous séduisent, nous construisent un monde où nous ne comptons plus que pour rien. Dans un tout autre contexte, loin des prophètes de l'Ancien Testament, je voudrais vous faire entendre la parole du dernier prophète qui est intervenu en terre d'Israël, avant l'arrivée du Christ. Il se tenait au bord du Jourdain, près de Béthanie, la maison des pauvres du Jourdain. Mi-homme, mi-bête. Un roseau parmi les roseaux du rivage. Le peuple venait le rejoindre et l'écouter. Il annonçait la purification. Il préparait les cœurs et les esprits à l'arrivée du monde nouveau de Dieu. Un monde réconcilié dans la justice et le pardon. Le peuple avait soif de ce genre de message. Quelque chose de neuf, une nouvelle qui ne vienne pas encore opprimer ou accabler, une parole forte qui relève et restaure, une bénédiction. cette voix venue du désert, écoutons-la aujourd'hui. Qu'elle parvienne jusqu'à nos oreilles modernes et que nous puissions la prendre au sérieux. Jean-Baptiste est mort, décapité. Sa voix s'est perdue dans les roseaux, mais son témoignage traverse les siècles. Quelques phrases, vers la fin du premier chapitre de l'Évangile selon Jean, redonnent souffle à sa parole. Lorsque Jean vit Jésus venir à lui, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit « Un homme vient après moi, mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. » Je ne savais pas qui ce devait être, mais je suis venu baptiser avec de l'eau afin de le faire connaître au peuple d'Israël. » Jean déclara encore « J'ai vu l'Esprit de Dieu. J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne savais pas encore qui il était, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser avec de l'eau m'a dit « Tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur un homme. C'est lui qui va baptiser avec le Saint-Esprit. » « J'ai vu cela, dit Jean, et j'atteste donc que cet homme est le Fils de Dieu. » « J'ai vu l'Esprit de Dieu, et j'atteste donc que cet homme est le Fils de Dieu. » Le témoignage du Baptiste est incroyable, une force, une simplicité. « J'ai vu, j'atteste. » Pas de mots inutiles, pas de grands émois, une parole sobre. Encore faut-il prendre le temps de l'écouter, de la laisser résonner. Parmi les contemporains du Baptiste, tous n'ont pas été touchés par ses déclarations. Les uns y ont cru, ils se sont mis à suivre le Messie. D'autres se sont contentés de ricaner, d'observer de loin, ou même d'attiser des conflits entre disciples de Jésus et disciples du Baptiste. D'autres encore ont eu peur. Les paroles de Jean les ont poussés à bout. La prison et le martyre pour celui qui a osé dire « J'ai vu l'Esprit de Dieu et j'atteste donc que cet homme est le Fils de Dieu. » Pas simple de reconnaître parmi tous les discours du monde la petite voix d'un Jean-Baptiste ou d'un Jérémie. Quelqu'un qui parle pour Dieu. Ce n'est pas très raisonnable, c'est même franchement suspect à nos oreilles. Comment parler d'amour et de pardon sans être ridicule? Comment dire la fraternité, la compassion, la confiance dans un monde qui ne partage pas ce genre de vocabulaire? Notre temps est un temps de tellement de messages qui surchargent notre vie que l'on ne sait plus où s'appuyer. Nous sommes dans un temps de saturation. Il nous suffirait pourtant d'une seule parole, simple et sûre, pour que nous puissions à nouveau vivre, respirer. Écouter, ne pas écouter. Quel est l'esprit qui nous guide dans nos choix d'écoute? N'oublions pas aussi que l'oreille est un lieu d'équilibre. Si notre oreille interne dysfonctionne, nous titubons, nous sommes pris de vertige. Comment alors nous repérer? Comment nous situer? Comment discerner notre route? Comment faire les choix nécessaires si nous ne savons plus écouter et comprendre le monde? Et si nous ne sommes plus entendus, si plus personne ne nous écoute et ne nous accompagne, si personne ne nous appelle à vivre. Réapprendre à écouter, être écouté. Je voudrais vous lire ici une parole de Dietrich Bonhoeffer, extraite de son livre « De la vie communautaire ». le premier service qu'on doit au prochain est de l'écouter. De même que l'amour de Dieu commence par l'écoute de sa parole, ainsi le commencement de l'amour pour le frère consiste à apprendre à l'écouter. Les chrétiens croient souvent devoir toujours offrir quelque chose à l'autre lorsqu'ils se trouvent avec lui. Et ils pensent que c'est leur unique devoir. Ils oublient qu'écouter peut être un service bien plus grand que de parler. Qui ne sait pas écouter son frère, bientôt ne saura même plus écouter Dieu. Même en face de Dieu, ce sera toujours lui qui parlera. Nous devons écouter avec les oreilles de Dieu, afin de pouvoir nous adresser aux autres avec sa parole. Voilà ce que dit Bonhoeffer. Les chrétiens croient souvent devoir toujours offrir quelque chose à l'autre. Ils oublient qu'écouter peut être un service bien plus grand que de parler. C'est une parole forte qui dit que l'écoute est vraiment le cœur de notre actualité. Parce que le temps où nous vivons n'est plus un temps d'écoute passionnée, attentive, profonde. Oui, je me dis que le défi de l'écoute serait un engagement fort pour nos églises d'aujourd'hui. Je ne parle pas de l'écoute distraite, ce qui rentre par une oreille et ressort par l'autre, ni de l'écoute savante de je ne sais quel psychanalyste, ni du confessionnal religieux. Mais une écoute qui prenne en compte l'autre et qui chemine avec lui. Une aptitude à l'écoute, qui recueille la parole dite comme une parole précieuse et la porte dans la prière. Et qui ainsi fait place à l'autre, qui est écouté, pour tenter de le comprendre, de le prendre avec soi, de le prendre avec soin, et de le porter un bout de chemin partagé. L'écoute nous engage. Bonhoeffer le dit bien, il s'agit d'écouter avec les oreilles de Dieu. L'avenir de nos églises, notre avenir, dépend pour une bonne part de la qualité de notre écoute. C'est-à-dire de notre soin à prendre en compte ce que nous percevons du monde qui nous entoure et des frères et sœurs qui nous sont confiés. Comment Dieu nous parle-t-il aujourd'hui? Comment discernons-nous sa parole? Que voulons-nous? Que pouvons-nous dire aux autres de cette parole qui nous anime? De même que l'amour de Dieu commence par l'écoute de sa parole, ainsi le commencement de l'amour pour le frère consiste à apprendre à l'écouter. Que le Seigneur nous donne d'avoir des oreilles qui entendent et qui sachent discerner parmi tous les bruits du monde, les paroles qui font vivre. Ici, avant de nous séparer, laissez-moi le temps de partager un poème de Victor Hugo. Peuple, écoutez le poète, écoutez le rêveur sacré. Dans votre nuit sans lui complète, lui seul a le front éclairé. Des temps futurs perçant les ombres, lui seul distingue en leur flanc sombre le germe qui n'est pas éclos. Homme, il est doux comme une femme. Dieu parle à voix basse à son âme comme aux forêts et comme aux flots. C'est lui qui, malgré les épines, l'envie et la dérision, marche courbé dans vos ruines, ramassant la tradition. De la tradition féconde sort tout ce qui couvre le monde, tout ce que le ciel peut bénir. Toute idée humaine ou divine qui prend le passé pour racine a pour feuillage l'avenir. Il rayonne. Il jette sa flamme sur l'éternelle vérité. Il la fait resplendir pour l'âme d'une merveilleuse clarté. Il inonde de sa lumière ville et désert, Louvre et chaumière, et les plaines et les hauteurs. À tous d'en haut il la dévoile, car la poésie est l'étoile qui mène à Dieu, roi et pasteur. Peuple, écoutez le poète.
De même que l'amour de Dieu commence par l'écoute de sa parole, ainsi le commencement de l'amour pour le frère consiste à apprendre à l'écouter. Cette écoute dont parle le pasteur Corinne Atlee me fait penser à l'importance de l'écoute chez l'aumônier hospitalier qui visite les malades. Voici ce qu'en dit la pasteur Inge Ganzevoort. « Quand j'ouvre la bouche et parfois les bras, c'est que je veux donner à l'autre, qui parfois n'en peut plus, le peu que j'ai, la vie qui se donne, parce qu'elle se reçoit. Entendre ce qui vient de l'autre, c'est passer un abîme. Partager la détresse dans laquelle il se trouve. C'est depuis sa détresse que je vais entendre quelque chose. À la détresse ne répond pas n'importe quelle consolation, seulement celle qui d'abord la partage. Je vais donc m'exposer. Le seul lieu d'écoute, c'est le vide vers lequel je vais. Parce que si c'est déjà plein, pourquoi y aller ? Ce que je vais entendre du lieu où c'est dit va inaugurer quelque chose de neuf. Nous souffrons moins, en fait, de ne pas savoir quoi dire que de n'avoir pas su écouter ni pu entendre. Et finalement, chers auditeurs, écouter commence par la nécessité à faire silence. Vous le savez bien, vous qui êtes à l'écoute. Voici pour terminer un témoignage de Marie-Christine Lebeu, aumônier des hôpitaux. Elle entre dans la chambre d'un homme qui a refusé sa visite la semaine précédente, mais qui cette fois la laisse entrer. Il dit qu'il ne croit pas en Dieu, mais il souhaite qu'elle reste un peu auprès de lui. Il est très fatigué, il ferme les yeux et reste silencieux. Elle s'assoit et ne parle pas non plus. Le silence dure, mais c'est ce que le malade souhaite. Sa présence, sans parole. Pour elle, ce n'est pas un gouffre de silence, un de ces vides terrifiants qui poussent à dire n'importe quoi pour faire fuir les ombres. C'est un silence calme. Son visage creux semble paisible. « Je suis recueillie, dit-elle, attentive à lui, tendue vers cette forme de paix qu'il nous est donné de partager. C'est un silence habité. » Puis elle ajoute « Moi, fille d'une église de la parole, je ne peux offrir ici que ce silence, bruissant de la promesse de celui qui est parole. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. »
Ainsi s'achève cette troisième conférence du carême protestant préparée par le pasteur Corinne Atlee de l'Église protestante unie de France et donnée par le pasteur Marianne Guéroux. Le carême protestant, coordination Brigitte Iselin, Antoine Sédoux et le pasteur Denis Heller. Pour la Fédération protestante de France, Michel Schaeffer. Merci à Marie Placé pour la réalisation de cette émission, à Philippe Bredin pour la prise de son. Vous pouvez commander d'ores et déjà l'ensemble de cette édition 2014 du Carême protestant sous la forme d'un coffret de 3 CD ou rassemblé dans une brochure éditée par Olivier Tan. Une petite annonce avant de vous laisser à la suite des programmes sur France Culture. Sachez que cette année, la concordance du calendrier permet à tous les chrétiens d'Orient et d'Occident de fêter Pâques le même jour. Le Conseil d'Église chrétienne en France recommande aux chrétiens de, je cite, « célébrer tous ensemble le Christ ressuscité, notre paix, en qui sont détruits les murs de séparation ». Alors, différentes proclamations œcuméniques de la résurrection seront organisées en différents lieux, le 20 avril, notamment en Île-de-France. Ce sera à 7h30, le dimanche 20 avril, place de la Défense. Et puis vous pourrez trouver d'autres horaires de célébration dans d'autres régions en vous reportant au site internet Unité des Chrétiens. Bon dimanche à tous.